Bonsoir et bienvenue à Poptronix et Popsonix Radio, Radio Création Éphémère. Aujourd'hui, un espèce de vaisseau où les gens rentrent d'ailleurs à leur guise. Nous sommes en train d'accueillir le public et aussi nos invités. Alors situons-nous à la fois dans l'espace et le temps. Nous sommes au Festival Sonore, c'est la fin de ce festival, des écoutes radiophoniques. Et nous voici au deuxième étage du lieu unique. Ancienne fabrique de biscuits Lus, bien connue. Et à cet atelier 2 est venu camper Popsonix Radio. Alors Popsonix Radio, je le cite en préambule, est à la fois un outil de création, un média lui-même échappé d'un autre média, en l'occurrence un web magazine plutôt dédié aux cultures électroniques, mais pas seulement, qui s'appelle poptronix.fr. Alors je cite avec appétit la poptronix.fr parce qu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent en ce moment même en stream sur ce site, donc poptronix.fr. D'autres, et ils ont bien raison, sur Nantes, qui vont écouter spécialement Jet FM. Et fort heureusement, vous, ce public qu'on est en train d'accueillir en ce moment. Alors, beaucoup le savent, nous sommes entichés depuis déjà deux volets de Popsonix à partir en quête des ondes perdues. Alors c'est une vaste besogne. Parce que les ondes, oui, les ondes se perdent. Elles se perdent dans l'espace, c'est même ce qui définit la propagation finalement. Elles se perdent curieusement dans les mémoires et elles se perdent dans les techniques, pour se retrouver aussi dans les techniques. Alors de façon plutôt candide, on va s'interroger ensemble, à la fois dans un parcours rythmé par des ponctuations journalistiques et des questions essentielles ou pas, d'ailleurs, hein, sur ce devenir des ondes. Nous allons aussi marier ça avec beaucoup d'archives, certaines très, très peu connues, d'ailleurs. Et alors là, nous sommes un petit peu fourbes, parce que tout cela est quand même un théâtre radiophonique où le vrai se dispute un petit peu au faux. Voilà, je vous ai prévenu. Nous marierons quelques fausses archives avec de vraies archives. Pour accompagner cette épopée, cette expédition, Mathieu Ricard va tenir ce rôle essentiel de journaliste. Je le répète, si nous sommes un média ou un faux média, nous avons besoin de journalistes. Et en journaliste candide, finalement, Mathieu, vous allez nous guider dans ce spectacle et dans ce méandre des ondes sonores. Anne Laplantine, que j'ose pas présenter ici dans ses activités les plus complètes, parce que ça demanderait probablement ce programme entier, qui est programmé sur 2h40, voire 3h, mais Anne Laplantine mériterait ses 3h. Et aujourd'hui, elle a trouvé pour nous un rôle de composition absolument formidable. Anne Laplantine sera speakerine. Speakerine est biographe des artistes invités ici qui vont donc performer en live. Au mot performance live, d'ailleurs, nous avons substitué les actions radiophoniques directes. Ainsi, nous attendrons successivement Diana Bird, Xavier Gauthier, moi-même et Christian Zanesi. Voilà, tout cela est composé en deux grands actes sonores. Et avant de rentrer finalement dans ce vrai théâtre, hein, nous n'y sommes pas complètement encore, vous l'avez remarqué, voici une lointaine, très lointaine archive du vieux XXe siècle. Oui, c'est déjà vieux quand on réfléchit à la technologie des ondes, à celles qui vont disparaître, condamnées par le digital audio broadcast ou d'autres normes qui vont finalement peut-être enterrer ces sacro-saintes ondes que nous pouvions entendre, et encore un peu, dans un simple transistor radio.
Denise, Benoît, Louis Dutreux, nous présentons par des chansons,
une fois par mois ou bien deux fois au mieux,
cette émission dans l'intention
de nous rendre tous moins vieux.
Prêtez-nous donc votre attention,
auditeurs de tout lieu,
écoutez avec joie
le journal officieux.
À vous Denise, Benoît,
à vous Louis Dutreux.
Ça a été dur, monsieur le directeur, ça a été dur.
Ah, et qu'est-ce qui a été dur?
Mais tous ces mois sans vous, monsieur le directeur.
Oh, trop bonne.
N'écris pas, je suis triste et je voudrais m'éteindre. Les beaux étés sans toi, c'est l'amour sans flambeau. J'ai refermé mes bras qui ne peuvent t'atteindre et frapper à mon cœur. C'est frapper au tombeau. N'écris pas.
Oui, mais je vous ai pas écrit, que je sache.
C'est Marceline Desbordes-Valmore qui parle.
Ah, ben, j'ai pas écrit non plus.
Oh, vous ne respectez rien.
Si.
Bonsoir et bienvenue dans le premier acte de « À la recherche des ondes perdues ». Donc après la petite leçon pédagogique du professeur Rébus, vous venez d'entendre un extrait d'une archive, puisque, comme vous l'a dit Jean-Philippe Renaud, on va naviguer beaucoup ce soir dans les archives sonores. Alors celle-ci, c'est un extrait du journal officieux du Club d'essai, qui date de 1948, Club d'essai dont on parlera un petit peu plus tard dans ce programme. En quelques mots, je vous annonce les festivités de ce premier acte. Vous allez entendre deux actions radiophoniques directes, selon le terme forgé par Jean-Philippe Renouz. Donc ce sera Dinah Bird, puis Xavier Gauthier qui seront avec nous pour performer. On parlera aussi de l'Electronic Voice Phenomena, ces voix fantomatiques qui viennent parfois se fixer sur les bandes magnétiques. Mais avant toute chose, je vais laisser la parole à notre speakerine du jour, Anne Laplantine.
Bonjour. J'ai besoin de Xavier, moi, pour chanter la chanson de Dinah Bird. J'ai besoin de la musique pour chanter la chanson de... Dinah Bird est née à Londres. Dinah Bird est née à Londres. Elle crée des programmes radio. Elle crée des programmes radio. Décalés et poétiques à base d'enregistrements sonores. Décalés et poétiques à base d'enregistrements sonores. Dinah Bird est née à Londres. Dinah Bird est née à Londres. Elle crée des programmes radio. Elle crée des programmes radio. Elle fait des enregistrements sonores et des bandes originales de films. Elle fait des installations sonores et des bandes originales de films. Vous avez compris ?
Oh, mais je pense, oui. Enfin, il y a toujours quand même quelques personnes dans l'assistance qui ont curieusement un peu de mal à comprendre.
Mathieu, vous pouvez décoder.
Graphie. Donc, Dinah Bird, qui est installée juste derrière nous, est donc une artiste née à Londres, qui crée des programmes radiophoniques et qui est une membre émérite de l'équipe de Pop Sonics. Donc, la radio, c'est du son, c'est de la voix, mais c'est aussi de l'écrit. Et pour écrire cette première pièce live de la soirée, Dinah s'est plongée dans les archives du grand producteur radio et critique Daniel Coe, qui a disparu à l'été 2008. Et elle a retrouvé ce qu'on appelle dans le jargon de la radio des conducteurs. Donc c'est les feuilles de papier que je tiens à la main. C'est là-dessus qu'on écrit l'ensemble du programme, avec les interventions des uns et des autres, les sons qui vont être diffusés, les indications à la destination des techniciens. Et donc à partir de ce matériau brut, Dinah Bird va vous proposer ses bruits de papier.
Tourne-disque Side A, mercredi 18 juillet 79. Track 1, Crystal Records, 5.858. Length, 5.58. After 1 minute 30, bring up the mic on the record player. At the end of the track, leave the mic on. Micro à blanc. After a few seconds, bring in the music very slowly and not too loud. I will speak over it several times. Je ferai des bruits de papier. À mon signe, disque obscur OBS 10. À mon signe, bring the mic up. Then leave till the end of the track. Shake a loops. Chante, le son de la mer. Bring in l'eau very loud, side A. Laisse la mer sur mag 1. We can hear it in the distance. 4 minutes 20. Ocean.
Le pays est calme, essai numéro 3. Le pays est calme. La guerre coûte sa paix. Calme. Le pays est calme. Encore. Le pays est calme. Les maisons comme des tombeaux. Calme. Le pays est calme. Encore. Le pays est calme. Les hommes, toujours comme des morts. Calme. Le pays est calme. Encore.
Et maintenant.
Jaune, jaune court.
Béatrice 3, 1959.
Béatrice 15, 1546. On chante le morceau qui précède, et on envoie, keyboard study.
Le pays est calme, et c'est numéro 2.
Arrêt, long, pause. Envoyer musique. Petit arrêt.
On chante le morceau qui précède. On chante. On arrête tout. Là, on arrête et on reprend tous ensemble. Tous ensemble, on reprend. Tous ensemble. On y va, tous ensemble.
I knew an old lady who had a chicken farm, and every Saturday afternoon we went there to get a chicken, and I had my piano lesson at the same time. He hesitates. He laughs.
Muse. Point 2. Souligné. En rouge. Attention. De points soulignés. En bleu. En rouge, pour aérer. Le type qui habitait à côté de moi, il jouait dans un saloon qui s'appelait Gold Start. Et le pianiste qui jouait là avait démissionné. Entre parenthèses, était parti, c'est préférable. Alors il m'a demandé si je... Point de suspension. Il savait que je jouais du piano et je ne savais pas jouer le ragtime. Alors, il m'a demandé si je voulais y aller, essayer. Et je suis allé essayer. Mais je ne pouvais pas vraiment jouer. Enfin, par oreille, je pouvais essayer deux ou trois choses.
C'est lui qui m'a appris tout ça. On n'était pas encore dans son trip, mais on était bien dedans.
Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai.
En bleu, temps d'arrêt.
Jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que je t'aime.
Le tempo est beaucoup ralenti.
Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai.
Plus bas.
Il y a
temps d'arrêt, souligné.
Jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que je t'aime. Jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que je t'aime. Jamais je ne t'oublierai.
Vérifiez si on a enlevé le fragment incompréhensible. À traduire, commence en français, puis anglais. 91. Pas de 92.
Souffle, souffle laissé à la fin, un souffle laissé à la fin, des craquements au début. Première pièce piano, 2-10. Deuxième pièce, piano, 4-17, avec souffle. Là, avec souffle, laissé.
Juste 4 minutes 30 possible, 4,45 à 50 mieux, 5 bien, 6 mieux, 7 encore mieux. In C. Don't forget to make Beatrice mention how it was made.
Béatrice 7, 21 bis, 21 terre, un jaune assez court, Béatrice 8. On laissera un temps après la précédente annonce Béatrice, on envoie le texte David Allen, en essayant de placer dessus David Allen. David Allen, toujours relax, lentement mais naturel, rencontre avec le poète et musicien australien David Allen.
Mais il y avait un type qui travaillait là qui s'appelait Wally Rose, qui est un joueur de Dixieland et de ragtime très connu aux États-Unis et aussi joueur de ragtime. Alors il m'a dit, viens travailler, je te donnerai des leçons.
C'est comme ça que le son est comme ça.
Et dans une semaine, tu sauras jouer. Point.
Make David come in quickly. Bring David in and try to say at the same time for the rhythm and comprehension.
Je l'ai fait, virgule.
Un temps assez long.
J'ai commencé à apprendre. Point.
Time in blue.
Nous commençons à être comment il faut commencer à être. Et ça tourne comme ça. Nous commençons à penser à comment il faut être pour commencer, à penser comment il faut être pour commencer.
Je suis une radiotéléphage. J'aime les informations, les émissions de société, les séries, les images et les sons. Je suis une radio, une association en particulier. Puis-je diffuser ? C'est un tout. Je suis une radio positive qui veut améliorer le vécu des gens. Je suis une radio qui veut diffuser de cours. Comment puis-je les commander? Je suis une radio locale. Comment survivre et diffuser mon flux? Quels sont les délais? Je suis une radio addict. Quel quelques petits détails m'horripilent de plus en plus. Il coupe souvent les chansons, passe les mêmes chansons en continu. Allô ? Je suis une radio. Attends-toi pas à ce que l'esprit prenne les décisions pour toi. Il n'y a pas de ligne qui indique que tu passes à un niveau de volonté réelle. Il n'y a pas de volonté simplement. Et elle s'exerce en faisant des choix, en prenant des décisions simplement. Je suis une radio commerciale. Mon objectif, c'est d'en faire au minimum un disque d'or, c'est-à-dire 100 000 exemplaires. Je suis une radio. Qui suis-je ? Je suis une radio créée par des passionnés de la voyance. Je diffuse des voyances en direct. Je suis une radio. La personne, comme je sens.
I am a mobile radio station. I am at home everywhere. I receive much better since I stopped eating meat. I receive much better since I stopped taking hard drugs. I like stones, air, and trees. I am everywhere. A part of the part of parts.
Voilà, c'était les bruits de papier de Dinah Bird. On parlera de cette pièce avec elle un peu plus tard sur le plateau de Popsonics Radio. Mais maintenant, avant de parler fantômes, interférences, paranormales avec Jean-Philippe Renoux qui m'a rejoint, on va passer une minute de silence avec Luc Ferrari.
La minute de silence de
Luke Ferrari.
There is no such thing as silence.
À la recherche des ondes perdues sur Pop Sonic Radio en direct du Festival Sonore à Nantes. Il est l'heure maintenant, puisqu'on parle d'ondes perdues, de parler de l'Electronic Voice Phenomena. Alors qu'est-ce que c'est l'Electronic Voice Phenomena ? C'est des ondes qui viennent se graver mystérieusement sur des bandes. Et évidemment, on a beaucoup réfléchi là-dessus. On s'est demandé des fantômes, des spectres peut-être qui arrivaient à communiquer par le biais des ondes radio. Je vous rappelle, on est contemporain quand même l'invention du phonotographe et du phonographe. Comme dans la photographie, on est en plein 19e siècle, plein mouvement spirit. Victor Hugo fait tourner des guéridons, parle à sa fille. Il y en a même des photographes qui truquent des photos pour montrer des glorieux ancêtres. On est dans ce mouvement-là. Et curieusement, là, c'est venu très tard avec la radio. C'est venu dans la fin des années 50. Avec un érudit suédois, peintre, archéologue, il a même été chanteur d'opéra, il a même eu des médailles du Vatican, qui s'appelait Friedrich Jürgensen, et qui a eu une sorte d'épiphanie en juin 1958 dans une forêt norvégienne où il était allé enregistrer des oiseaux. Racontez-nous cette belle histoire, Jean-Philippe René.
Oui, alors finalement, on n'est plus dans les ondes perdues, on est presque dans les ondes retrouvées, ou alors, vous savez, ces ondes pirates, ces fantômes qui vont finalement hanter vos greniers. Ah, une puissance romantique extraordinaire dans ce genre de choses-là. On en parle aujourd'hui dans Pop Sonics Radio, parce que ça a inspiré l'œuvre, la création que nous proposait Christian Zanesi tout à l'heure. Évidemment, EVP, Electronic Voice Phenomena, autrement dit, c'est ces voix paranormales qui vont se greffer comme ça dans les interstices de votre transistor radio, entre deux fréquences ou même sur une bande magnétique. Aujourd'hui, on a un peu envie d'en rire. Et en l'occurrence, Frédéric Jürgensen, ça lui arrive, oui, il enregistre les oiseaux tout gaiement dans la forêt et puis au milieu du chant des oiseaux, en réécoutant la bande, et non pas en cours d'enregistrement, il entend une voix. Effectivement, on n'est ni celle des oiseaux, ni celle des ogres ou des trogues alentours. C'est effectivement, dit-il, celle d'un esprit. Esprit, si ce n'est farceur, au moins malin, puisqu'il va lui suggérer de continuer un petit peu sa quête et lui faire comprendre, genre, bon, mon petit père, c'est le nagra en bandoulière, c'est bien, c'est-à-dire c'est l'enregistreur portable qui permettait d'enregistrer effectivement dans la nature, mais tu arriveras à de bien meilleurs résultats avec les ondes radio. Et en l'occurrence, un esprit lui suggère même une fréquence précise, le 1485 Hz. Enfin, kilohertz d'ailleurs. Alors on s'amusera d'ailleurs à constater qu'aujourd'hui, cette fréquence-là type en Suède porte le nom de son découvreur ou inventeur, c'est-à-dire Frédéric Jürgensen. Et il a fait un travail gigantesque, c'est-à-dire qu'il a accumulé des centaines de bandes et dans centaines d'heures de supposés esprits. Bah, exemple, celui-là.
Главный.
Alors Frédéric Jorgensen avait pris le soin, quand il archivait ses bandes, et vous l'aurez peut-être certainement remarqué, de répéter 3 fois le message. Probablement parce que la première fois, effectivement, un esprit, il fait pas rire.
La première fois, surtout, c'était sa mère qui devait parler.
Mais ce fait qu'il y ait 3 répétitions dans la bande est intéressant. Il y a une volonté certainement de convaincre l'auditeur. C'est l'effet 3 lames de celui qui veut se raser de près. Si vous voulez. La première lame va un petit peu décaler les doutes de l'auditeur. La deuxième va finalement lui dire « mais oui, pourquoi pas ?» jusqu'à ce que la troisième lui dise « mais oui, mais c'est bien sûr ». Et là, en guise de « oui, mais c'est bien sûr », c'est Annie Besant qu'on a entendu. Alors Annie Besant, c'était, on s'en rappelle peu, il faut dire, mais c'était quand même une féministe très engagée de la fin du 19e siècle, donc une Britannique, libre penseuse, féministe bien avant l'heure, rejoint aux côtés des suffragettes, et de surcroît présidente à l'époque de la Société de Théosophie. On devinera donc largement baignée finalement d'ésotérisme, mais vous le rappeliez tout à l'heure Mathieu, effectivement l'ésotérisme à l'époque finalement était partie, c'était presque une démarche. C'était presque une démarche intellectuelle, ce qui est effectivement beaucoup moins le cas en 1961, date supposée de cet enregistrement, 61 ou 62, c'est pas totalement daté. Annie Besant disait tout simplement, c'est Annie Besant qui vous parle. Et maintenant, voici la suite de sa conversation. Moi, personnellement, j'ai cru à un moment que c'était Anne Laplantine. Chose est claire, Annie Besant est absolument groovy, certainement aidée par le jeu des interférences du poste en question. Alors je vous livre telle quelle la traduction, en tout cas supposée traduction, de ce que nous entendions. « Freddy, nous t'observons, les morts, nous sommes assis sur le vaisseau de la mort est assise avec nous. »
C'est charmant.
C'est absolument poétique, c'est absolument formidable. Et il y a beaucoup de gens qui ont réagi à... Alors, fortement et de façon passionnée à ce genre de choses. Évidemment, on dit « qu'est-ce que c'est que cette foutaise ?» Et puis d'autres qui, convaincus ou pas, ont vu en cela finalement une espèce de force poétique. Et c'est Burroughs, l'un des premiers poètes finalement vivants à l'époque, qui a contacté Jorgensen et qui lui a dit « mais dis donc, c'est incroyable, c'est du cut-up, ça !» Alors en plus, du cut-up mortuaire par les esprits, c'était forcément fascinant. Et ce genre de phénomène continue à intriguer, au moins interroger des acteurs gothiques, hein, vous savez, de musique soit post-industrielle ou autre. Je citerai en tête Genesis Peerage, donc un des membres un peu émérite et fondateur de Frog and Whistle. On n'est pas surpris du tout qu'il s'intéresse à la question de façon comme ça, purement artistique. Après, effectivement, que dire de plus sur le scepticisme ou non-scepticisme de ça ? Les ondes perdues, effectivement, mécaniquement, elles se perdent parce qu'on est entouré de substances, d'orages, de courants d'air électromagnétiques. Donc, dans cet électromagnétisme-là, eh ben, il y a des poussières, des scories comme ça, sonores, qui vont se déposer hein, exactement... comme la poussière sur le coin de votre oreiller, et puis finalement voler de l'autre côté de la pièce ou même de l'appartement. Bah, il en est exactement pareil des ondes. Mais il y avait des interprétations aussi assez singulières et intéressantes des EVP. Ces voix paranormales, on n'a pas trouvé beaucoup mieux comme traduction en français, qui comparaient ces illusions finalement auditives au test de Rorschach. Et quand vous allez déplier finalement symétriquement cette tache d'encre qui va représenter alors à vos yeux un papillon, ou aux yeux de l'autre une fleur, et pourquoi pas aux yeux du troisième sa grand-mère sur son rocking chair, il est évident qu'on doit pouvoir entendre à peu près ce qu'on veut dans ces ondes-là. Moi, on m'a certifié que c'était Annie Besant, mais finalement, en y réfléchissant bien, je me demande si c'était pas Janis Joplin, par exemple.
Alors pour ceux que ça intéresse... Je vous conseille une petite recherche sur Internet. Vous pouvez. Alors, il y a une société américaine qui collationne toutes ces sources sonores, qui a une belle bibliothèque, donc effectivement assez surprenante, avec tout un tas de célébrités, puisque Jean-Philippe ne l'a pas dit, mais Van Gogh, notamment, a parlé à Friedrich Jurgensen. Il y a beaucoup de gens qui sont allés le voir dans les années 70. Ils ont mené des expériences très scientifiques à vérifier que les bandes n'étaient pas magnétiquement chargées avant chacun des enregistrements. Et donc on a toute une école, évidemment très ésotérique et très américaine, qui continue à mener ce travail de recherche. Voilà, un travail qui est assez, comment dirais-je, ancien, puisque Edison avait lancé comme une blague dans les années 20 dans un journal qui travaillait à une machine justement capable d'enregistrer les esprits.
Ah, c'est sérieux, ouais.
Ouais, ouais, non, c'était. Alors il avait fait une blague, mais le pire, manifestement.
C'était,
ouais.
C'était même pas par conviction, c'est que forcément Edison est pris de technologie, hein, c'est l'homme aux 1000 brevets, si c'est pas plus. C'était dit, c'est quand même terrible que les esprits doivent se manifester de façon aussi archaïque, c'est-à-dire en frappant du guéridon un coup sur la table. Il paraît évident que si tout le monde se dote de nouvelles technologies, les esprits doivent, bien sûr, être nouvelles techno. Bon, alors ça est resté sans suite, hein. On peut lui pardonner d'avoir raté ce brevet-là, puisqu'il en a fait pas mal d'autres.
Voilà, mais enfin, il y a quand même des gens, hein, qui ont fouillé toutes ces archives, et malheureusement, on n'a pas trouvé une seule ligne sur cette machine, qui reste donc encore à inventer. Je vais demander à Anne Laplantine de nous rejoindre, puisqu'il est l'heure maintenant d'annoncer, alors elle sera toute seule cette fois, puisque Xavier Gauthier s'est mis en place, hein, et il va nous présenter... son action radiophonique après la petite présentation géographique d'Anne Laplantine.
Le travail de Xavier Gauthier combine sous des formes diverses des éléments de réalité et de fiction. Et de fiction. Leurs associations donnent corps à des trames narratives qui recèlent d'une certaine nostalgie pour un passé encore présent, encore présent, et pourtant lointain. Vous avez compris ?
Tout à fait.
Tout le monde a compris. Donc Xavier Gauthier, qui est un jeune plasticien qui s'intéresse au son, et qui ce soir va vous présenter Galaxy, voilà, qu'il qualifie lui-même de mégamix, d'une vingtaine de ses créations sonores, qui sont des pièces qui réfèrent autant Blade Runner que les mangas japonais. Et voilà, sur ce mégamix sonore, il va poser sa voix. Xavier Gauthier, c'est à vous.
Bon, partout, j'ai joué ça. Bon, partout, j'ai joué ça. Bon, partout, j'ai joué ça. Mon partout aux USA. Mon partout aux USA.
Nous partons aux USA. Nous atterrissons à l'aéroport.
Nous atterrissons à l'aéroport.
Et louons une voiture. Nous voyageons.
Nous voyageons.
Des maisons.
Des maisons,
des supermarchés,
des
banques,
des églises.
Nous faisons un pique-nique au bord d'un
grand cimetière.
On dirait un grand parc.
Il y a des tombes
à perte de vue. Nous jouons au frisbee. Bientôt, la nuit tombe. Des formes étranges apparaissent. Un fantôme sans tête.
Un
Indien.
Une sorcière.
Un Jack à la lanterne.
C'est la nuit américaine.
Un papier, un petit papier, un mince rouleau de papier, des bracelets, des images, une image en couleur, un cheveu, une brosse, des ciseaux, un couteau, un couteau, un tableau, des livres, un gros livre, un peigne, des sandales, des cartes postales, une chaîne, des crayons, un crayon, des bonbons, un médaillon, des chaussures à talons, un cordon, des éventails chinois, des bonbons au chocolat, des cigarettes, une amoulette, des allumettes, des boîtes de savonnettes, une pêche, un noyau de pêche, un tuyau de paille, une boucle d'oreille, un flacon d'encre rouge, une serviette tachée de rouge, de la cire à cacheter rouge, des carottes, une bougie, 6 bougies, une photographie, des gâteaux à la crème chantilly, un livre de pêche de Californie, une règle, un cercle, une chose, une grande boîte en fer blanc, une pièce d'un marque en argent, un talisman, un tiroir, un mince ruban noir, un foulard, un cordon noir, un mouchoir, un petit tiroir, des dessins de bas, une boulette de cire.
La petite Anne Frank a noté dans son journal. L'Andre-Jean-Frodé-Sendat. A noté dans son journal. Anne Frank. La petite Anne Frank a noté dans son journal. L'Andre-Jean-Frodé-Sendat. A noté dans son journal. Anne Frank.
Mercredi 23 avril 86 à 20h.
Bon, excusez-nous parce que là on pique les chansons sur d'autres radios. Ça fait qu'il y avait la bonne femme qui a parlé. Sting.
Hurrah, 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 hurrah. J'ai jamais été au service un humain par erreur. Mais dans votre métier, il y a toujours un risque. Monsieur Decker, docteur Eldon Tyrell, vous permettez pas de fumer. Je ne l'accepte pas. Et aussi, je vais voir la police pour lui signaler la personne qui me l'a donné. Je l'emmène chez le docteur. Je la tue. Vous me testez pour savoir si je suis un réplicant ou une lesbienne, Monsieur Decker. Je ne le laisserai pas faire. J'estime que je dois lui suffire. Je voulais le voir. Alors je vous ai attendu. Laissez-moi vous aider. Je ne sais pas pourquoi il vous a raconté tout ça sur moi. Il a refusé de me répondre. Vous croyez que je suis un réplicant? Regardez, c'est moi avec ma mère. Le Faïclan. Des centaines de bébés araignées sont apparus. Ils l'ont mangé.
Mais je ne pense pas, M. Deckard. Je ne suis pas une femme de part.
Je ne suis pas dans le business. C'est moi le business. Et si je pars dans le Nord, vous continuerez à me poursuivre, me traquer. Deckard, vous connaissez mon dossier des anciens services dont j'ai évité toutes ces choses. Vous les avez vus? Mais vous faites partie de la police. Votre test est de votre camp. Avez-vous l'idée de faire sur vous, Deckard? Je ne savais pas si je savais. Je me rappelle de ce. Je ne sais pas si c'est moi ou la nièce de Tyrell. Je n'ai plus envie à ma mémoire. Embrasse-moi. J'ai envie de toi. J'ai envie de toi. Prends-moi dans tes bras. Je t'aime. Je disparais.
Quand je me suis levé ce matin-là, j'ai vu
mon ami Emmanuel Bruel qui était debout, Twins qui est en train de voler.
Il y avait un petit avion, il y avait un petit avion qui avait des tours. Ça me semblait bizarre qu'elle parle des Twins parce qu'on vient d'y aller tout en haut, la veille au soir. J'ai vu qu'elle prenait sa caméra,
qu'elle descendait, filmée.
Elle est descendue dans la rue.
Je vais dans le couloir,
la vois qui revient,
blême.
Les deux tours qui sont comme des torches.
Alors,
on dit qu'elle avait rencontré une dame en larmes,
une dame
qu'elle n'avait pas
qu'elle n'avait pas voulu filmer.
Elle est quand même descendue tous les deux.
Il
y avait beaucoup de monde qui regardait tous dans la même direction. Parce qu'il y avait des arbres devant. Donc on marchait. On a entendu un bruit sourd et lointain qui semblait assez proche. À crier les gens et à partir en courant dans le sens opposé. Alors on a presque fait la même chose sans savoir qu'est-ce qui y arrivait. Alors on avait l'impression que c'était au coin de la rue. En s'approchant, on a vu une des tours qui flambait et puis tout entouré de fumée. Emmanuel m'a dit qu'il manque une... C'est pas possible, il manque une des tours. Ça me semblait aberrant, mais on voyait bien que c'était... Sur leur visage, on voyait que les gens étaient... qui connaissaient des gens effondrés. À la maison, on allumait la télévision. On a vu les mêmes images que ce qu'on voyait dehors. Ils disaient que sur le Pentagone, qu'il y avait aussi une attaque d'avion qui était détournée par des terroristes. Emmanuel a tout de suite...
Alors on est reparti dans son mari ou là-bas avec quelques affaires.
On voulait partir en même temps vers le nord de la ville, s'éloigner parce qu'il y avait un énorme nuage de fumée, très noir. Tous les gens faisaient comme nous, ça faisait un peu comme l'exil. Toute la rue pleine de gens, il n'y avait plus de voitures, sauf qu'on entendait beaucoup de sirènes et d'ambulances. Ensuite, le reste de la journée, on a pensé que c'était quelque chose comme une guerre. On avait ce sentiment-là. Tout le monde a senti ça, quoi. La journée du mardi, voilà.
C'est le soleil qui fait ça, ça fait comme un arbre jaune. Le beau soleil, c'est magnifique. Regardez, c'est trop beau. Regardez maintenant, c'est tout moche. Et regardez là, c'est beau, hein. Ça, c'est la dame qui nettoie tout. N'y est pas. Vous voyez que ça. Vous voyez la cuisine qui est là-bas. Et là-dedans, il y a Xavier. C'est lui qui m'a prêté ça. Je sais plus quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. Aussi la mer. C'est là où en fait, c'est pas exactement la mer. On appelle ça la rivière. C'est là où vous voulez aller. Et c'est super, il y a plein de sable, mais c'est des cailloux en fait, c'est pas exactement du sable. Voici un arbre. On appelle ça l'arbre de cabane, mon frère, moi et mon copain. C'est pas vraiment un arbre de cabane. Je vais vous expliquer pourquoi on appelle ça un arbre de cabane.
Lidia. Lucia.
Paolo, Lidia.
Giovanni.
Wolfgang.
Lidia.
Lidia.
Antonio.
Maria.
Andrea.
Filippo.
Giovanna.
Cesarino.
Beatrice.
Roberto.
Giovanni.
Cesare.
Valentina.
Valentina.
Ignazio.
Valentina.
Ignazio.
Giovanni.
Valentina.
Giulio.
Giulio.
Maria Teresa.
Valentina.
Angelo.
Valentina.
Giulia.
Giulia.
Roberto.
Valentina.
Valentina.
Tommaso. Tommaso.
Lidia.
Voilà, c'était la galaxie très personnelle, millésimée même, de Xavier Gautier, qui va nous rejoindre sur le plateau de Popsonics Radio avec Dana Bird. Alors, le temps que tout le monde s'installe, je vous propose à nouveau un petit temps de silence, cette fois avec George Clinton.
La minute de silence de
George Clinton.
Yabba dabba doo, Zababa.
Alors voilà, Xavier Gautier, Dana Bird et Jean-Philippe Renoux m'ont rejoint. Donc vous venez d'entendre deux pièces sonores très différentes. On avait envie de vous présenter une palette assez vaste de ce que peut être la création musicale contemporaine, pas forcément marquée par un esprit de sérieux qu'on lui associe souvent. Donc je vais commencer par vous, Dana. Je voudrais que vous nous racontiez un petit peu la genèse de cette pièce un peu particulière, les bruits de papier. Donc vous avez travaillé à partir de documents écrits par Daniel Coe. Racontez-nous un peu comment vous est venue cette idée.
C'était pour le premier à la recherche des ondes perdues qu'on a fait en octobre. Et ce qui me fascinait dans ces archives, ces conducteurs de Daniel Coe, c'est quelque chose qu'on ne voit jamais. Vous avez montré tout à l'heure votre conducteur, mais c'est quelque chose, c'est comme si on lisait le journal intime de quelqu'un. Et surtout parce qu'il y avait des petits mots qu'on écrit toujours sur notre journal, appeler tel quelqu'un, n'oublie pas de faire X, X, Y. Et aussi une notion de ton que je trouvais très intéressante. C'est dommage parce qu'on avait envie de vous montrer, mais bon, c'est la radio, donc pour ceux qui sont avec nous ce soir, sortez bien, mais pour ceux qui écoutent, ça ne pourrait pas vraiment vous aider. Mais ils sont très, très beaux aussi visuellement. Ils étaient faits à la main, donc c'était dans les années 70-80. Donc il faut imaginer un cahier d'écolier de maths, donc toujours des petites feuilles de papier carré, de couleurs différentes, principalement le rouge, et le bleu, et puis il parle beaucoup de couleurs, donc en radio, un jaune, qu'est-ce que c'est un jaune? Ben, si vous avez déjà fait de la radio à l'époque quand on coupait de la bande, un jaune c'était tout simplement un morceau de scotch qu'on mettait pour mettre une silence. Mais qu'est-ce que ça veut dire si je vous dis ben, il faut mettre un jaune là, ou un ton, un petit ton, un court arrêt? Donc c'était toutes ces notions de ton qui était à la fois très personnel, mais aussi des directions à quelqu'un qui était censé de travailler avec lui. Donc j'avais envie de à la fois reprendre ces objets aussi, parce que je les trouve très beaux visuellement et aussi comme texte, et puis les donner aux gens qui ne font pas de la radio, et puis voir, moi j'étais émerveillée par ces textes, mais je connais la radio et je connais aussi la personne qui les a faits, donc j'étais intriguée de savoir qu'est-ce que ça pourrait donner dans la bouche de quelqu'un d'autre.
Dinah Bird, je crois même qu'il y a une vraie anecdote qui justifie le nom de la pièce, c'est-à-dire « Bruit de papier ».
Oui. Dans le premier, un qu'il a fait, je pense que c'était 68, ça c'était vraiment un des premiers. Donc c'était tout fait en crayon, où il fallait envoyer un disque ou quelque chose sur Mag 1. Tout était fait même avec une règle. Et puis pour le technicien, donc ce soir on a notre technicien Charlie. Mais imaginons que moi je donne, avant de faire ce que j'ai fait ce soir, je donne ma feuille à Charlie. Et puis écrit dedans, c'est... Je vais envoyer telle musique, je fais faire X, Y, Z, et attention, je ferai des bruits de papier. Donc je vais prendre mes scripts que vous voyez comme ils ont sur la table, et puis faire des bruits de papier. Donc il n'y avait rien à laisser aux chances. Donc voilà, oui, voici la raison pour laquelle j'ai nommé cette pièce « Bruit de papier ».
Oui, non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est la personne de Daniel Coe, parce que ça a été quelqu'un de très très important dans l'histoire de la radio en France.
Oui, là, c'est vrai que Dinah et tout comme moi, on peut en parler vachement facilement. C'est bien d'ailleurs que cette pièce lui rende hommage. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que Dinah, je réponds pour vous et vous pouvez m'interrompre hein, d'ailleurs, mais ait voulu faire un hommage direct à Daniel Coe. Elle a fait un hommage à une forme d'archive radiophonique, et même par le mot archive, j'entends même plutôt pratique, parce que ces conducteurs totalement calligraphiés, surligné de plusieurs couleurs, avant même l'invention du stabilo boss. Hein, donc c'est quelque chose qui était extrêmement désuet en un sens, et qui rend hommage à finalement une école radiophonique de papa. Mais le paradoxe sublime, c'est que dans les mains de quelqu'un comme Daniel Coe, c'était le passeur de la modernité et l'un des plus doués de son temps, parce que on lui doit d'avoir introduit en France beaucoup de musique contemporaine qui n'avait pas trop le droit de citer en France ou en Europe. Je pense aux minimalistes américains, hein, toute cette école de la Monte Young et de leurs descendants comme Steve Reich, Philip Glass ou d'autres. Mais on a vu aussi Daniel Coe extrêmement affûté, pointu dans le domaine des nouvelles musiques noires, du free jazz. Il avait introduit pour la première fois en France Albert Heller, Sun Ra. Je me rappelle aussi qu'il était tout à fait dingue de Moondog et avait aussi offert aux éditeurs de Radio France, c'était France Culture à l'époque, ce genre de choses qui étaient drôlement rares. On se dit que dans les années 90 ça change, mais il faut se situer dans les années 60 quoi, ou début 70. Même sur la musique arabe, il était totalement incollable. Mais alors ça n'empêchait pas d'avoir ces conducteurs manuscrits, calligraphiés, hiéroglyphiés, hein, si on va par là, à l'égyptienne. Donc voilà, un hommage au personnage et à l'homme de radio. Il y a aussi un hommage à la radio, et puis c'est tout ce qui nous réunit aujourd'hui ce soir, donc ça tombe plutôt bien.
Puisqu'on parle d'hommage, Xavier Gautier, vous avez fait une madeleine en fait. Hein, on a entendu beaucoup de choses.
Oui, vous avez des souvenirs, vous. Hein.
Ouais, ouais, bah, c'est des madeleines à chaque fois. Hein, il y en a beaucoup. Hein. Plus on avance, plus on en a. Quoi.
Donc, alors, on a entendu beaucoup d'années 80. Donc, voilà, Les gens ne vous voient pas, mais vous êtes finalement un jeune trentenaire, comme on en croise beaucoup. Peut-être que vous avez une nostalgie de cette époque
Non, j'aime pas beaucoup en fait. Le mot nostalgie, je vis dedans au présent. En fait. Ce n'est pas pour faire revivre quelque chose. Il me semble que ça peut se croiser avec aujourd'hui dans une sorte de bouillie, comme j'ai fait. Voilà, il n'y a pas de nostalgie, non, c'est vraiment... le passé, le présent et le futur, c'est pareil pour moi, en fait. Donc,
Elsa est toujours là, quoi.
Ouais, voilà. Ouais. Ouais. Moi, je vis avec Elsa tous les jours. Hein, pas de problème. Donc, non, c'est pas de la nostalgie. Mais en même temps, je trouve ça intéressant, la nostalgie. C'est plus dur que ça n'a l'air. Enfin, moi, je veux pas que ça ait l'air, ça, de chanter Capitaine Flamme dans une soirée. Ça m'intéresse pas du tout. Mais par contre, la nostalgie, ça peut être... L'étymologie, c'est la souffrance du passé. Puis je trouve que c'est beaucoup plus dur que ça. C'est une maladie, quoi. Donc voilà, oui, ça me nourrit quand même, enfin, d'aller creuser dans les choses passées. Mais on en croise tous les jours, quoi, sur n'importe quelle page internet. Donc puis tout le monde fait ça. Hein.
Voilà. C'est joliment dit.
Alors, vous êtes plasticien, Xavier Gauthier.
Oui, plutôt.
Comment vous êtes venu à travailler sur le son?
Ben, en fait, tous mes amis, c'est des artistes, des musiciens, déjà. Et je ne sais pas, ouais, je vois ça comme un satellite, en fait, de ce que je fais habituellement. Mais du coup, c'est vraiment un terrain de jeu, quoi. Donc, je n'ai pas d'intimidation par rapport à ça. Je me permets de faire des trucs... honteux comme ça, et je sais pas, ça me permet, c'est comme un journal, quoi, de choses que je collecte et que j'ai envie de donner à écouter. Voilà, c'est une pratique assez libre, en fait.
Ce qui est amusant, parce que quand on prête bien sûr oreille à votre pièce, cette espèce de méga mix, c'est que finalement ça met au même niveau Elsa, et, dont vous avez été témoin dans votre jeunesse, et les Twin Towers qui brûlent, dont vous avez été témoin aussi réellement.
Oui.
C'est une espèce de mise à plat complètement exutoire.
C'est cette espèce de carambolage, il est le même dans ma tête, en fait. C'est-à-dire que Elsa et les Twin Towers, c'est très...
Même combat.
Enfin, voilà, j'ai envie de les mettre ensemble, en fait. C'est-à-dire que ça nous regarde autant, en fait, Elsa et les Twin Towers. Mais ouais, enfin, en même temps, j'aimerais faire quelque chose de plus politique, parfois, au sens direct. Je pense toujours à cette phrase de François Truffaut dans son film La Nuit américaine, où il rêve toutes les nuits. Il y a des journalistes qui lui disent « Pourquoi vous ne faites pas des films politiques ?» Et ça, moi aussi, j'y pense, quoi, souvent. Je me dis, la nostalgie, les enfants, il y en a marre, quoi. Il faudrait faire quelque chose de vraiment politique. Et en même temps, ben, c'est ça qui me vient, donc je fais ça comme ça, quoi. Voilà. Je ne sais pas, je vais peut-être dériver. Je ne sais plus où on en était.
Non, je me demande si l'apolitisme n'est pas très politique, justement. Mais ce serait un autre débat, hein, ces
ouais,
enfants.
Ouais. Non, mais voilà, ouais, je ne veux pas que ça soit frontal non plus. Hein.
Très bien. Sur cette conclusion un peu timide, hein, comme conclusion.
Ouais, c'est vrai.
Ouais.
Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire alors?
Ah ben, je ne sais pas. Une idée?
Non, mais on va passer à Anne, hein, je crois. Simplement.
On va faire d'abord un petit interlude.
Oui, c'est la fin de l'acte. Hein,
c'est la fin de notre premier acte. On va se retrouver tout à l'heure.
Enfin, c'est maintenant.
Ça va aller assez vite. Hein. Voilà, pour la deuxième partie de cette émission, où là, on sera plus dans la joie du parasite.
Oui, la joie surtout.
Et la joie toujours.
Subsonics Radio.